Suite et fin de cette première table ronde de la journée, sur un temps un petit peu plus informel qui est celui du déjeuner. Vous avez été en effet nombreux à nous transmettre vos questions pendant nos discussions avec Olivier Minot et Vincent Martini. Et dépassés par notre enthousiasme, eh bien Pierre et moi n'avons pas eu le temps de les poser en direct à nos deux invités. Ils ont très gentiment accepté de prendre un peu de temps sur le déjeuner pour continuer la discussion. Première de ces questions, par rapport au fait que tout le monde puisse faire de la radio, quel regard sur le « formatage » entre guillemets des écoles de journalisme ?
Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait de la radio depuis que j'ai 12 ans. Après, il y a un formatage, je sais pas, il y a un bouquin de François Ruffin là-dessus qui est intéressant, qui s'appelle « Les petits soldats du journalisme ». On en a reparlé récemment. Il y a un petit reportage, un petit montage très intéressant sur arteradio.com qui s'appelle « Et là, c'est le drame » qui décrypte pourquoi tous les commentaires des journaux télé sont les mêmes. Voilà. J'ai pas d'avis là-dessus, mais j'ai deux petites pistes, ce bouquin et ce petit truc à écouter.
On mettra le lien vers le livre et le...
Moi, de fait non plus, j'ai pas fait d'école de journalisme. Et je fais pas de la radio depuis 12 ans, mais depuis l'âge de 12 ans, mais depuis pas très longtemps. Donc, d'une certaine manière, j'ai été, avant de faire de la radio, exaspéré par le formatage. Oui. Des questions, du ton de la voix dont tu parles. C'est-à-dire, qui ne trouve pas insupportable au bout d'un moment d'observer un journal télévisé où vous avez le même ton, les mêmes emphases, les mêmes métaphores. Moi, je trouve que c'est surtout un appauvrissement épouvantable de la langue, surtout, utilisée. Une incapacité à faire surgir, justement, des mots du quotidien qui fait qu'il y a une déréalisation. Ça participe de la déréalisation, à mon avis, de l'information. Et au-delà de ça, le sentiment que la langue des journalistes n'est pas la langue des gens.
Oui.
Et donc, il y a un formatage dans les méthodes. Après, il faut, encore une fois, pas confondre le formatage sur des formules et le fait qu'il y a des techniques de radio, tout simplement. Par exemple, quand vous avez des invités et que vous avez une discussion avec eux, c'est pas une discussion comme dans la vie non plus. Par exemple, dans la vie, vous ne répétez pas Olivier Minot tout le temps quand vous parlez à quelqu'un. Mais à la radio, il faut bien situer l'auditeur manière qu'il y a des fois vous rappelez qu'on est dans telle émission, qu'on parle de telle chose et que tout ça, ce sont des techniques qu'on apprend. Donc, je ferai quand même une différence entre l'apprentissage d'un certain nombre de techniques de radio qui est légitime et le formatage dont on parle qui en effet est une dérive en fait de ces techniques.
Alors, deuxième question, pour les émissions en plateau, est-ce que c'est un format inchangeable ? Est-ce que les grandes radios sont condamnées à reconduire les mêmes formats ?
Bah non. Non, puisqu'il y a des nouveaux formats qui émergent. Dans les faits, encore une fois, à risque d'apparaître comme la branche marketing de France Culture, c'est quand même une radio qui essaye de faire émerger des nouveaux formats, nouveaux formats reportages, nouveaux formats d'émissions, nouveaux formats d'intervieweurs. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure à l'antenne, c'est-à-dire qu'on peut faire émerger de nouveaux types de métiers, de nouveaux types de personnes, tout simplement, qui posent des questions. Et à mon avis, on n'est pas du tout au bout. On est en train de commencer à se rendre compte que il faut peut-être arrêter de penser que ce sont forcément des journalistes qui doivent poser des questions. Je pense que moi, on est en train de revenir à quelque chose qui existait au début du Radio Libre. Alors, c'est pas du tout sous la même forme.
Bien sûr.
Mais à mon avis, les nouveaux formats, ils passeront par là. Je donne juste un exemple pour reprendre sur l'idée de radio en campagne. Moi, il y a un truc que je trouve totalement délétère, qui est les soirées électorales. Les soirées électorales, aujourd'hui, c'est des journalistes qui demandent à des hommes politiques qui ont gagné pourquoi ils ont gagné, qui ont perdu pourquoi ils ont perdu. Aucune analyse, aucun retour, à part sur France 3, où on a des types assez marrants, avec des looks, en effet, tout à fait pas journalistiques, au sens où on l'imagine, qui passent 4 heures à décortiquer les élections. Mais on reste encore dans ce espèce de huis clos entre les journalistes et les hommes politiques.
Oui.
C'est-à-dire qu'on n'introduit aucun autre type de personne, à part peut-être les patrons d'instituts de sondage. Mais enfin, c'est le même univers. Et ça, moi, je le regrette. Moi, je dis, à quand des politistes, des historiens, des sociologues qui vont discuter ? Parce que ce serait beaucoup plus intéressant. On a compris qu'un tel a gagné, que l'autre a perdu. De toute manière, celui qui a gagné va dire « j'ai gagné parce que j'étais le meilleur ». Celui qui a perdu a dit « j'ai perdu, mais j'ai pas perdu ». Bon, voilà. Ça n'intéresse personne. À 9h, tout le monde est couché. Alors que je crois qu'on pourrait transformer ces rendez-vous selon des formats totalement nouveaux, totalement différents, qui permettraient d'introduire, je crois, des éléments beaucoup plus intéressants de compréhension de ce qui s'est passé.
Oui, d'accord.
Moi, je regrette un peu l'absence de mélange des genres, alors pas politique et comique, mais On a les émissions de plateau et les émissions de documentaires ou de production sonore, de création sonore, de reportage. Et on a de moins en moins, comme il y a eu dans le passé, on parlait de L'Oreille en coin du week-end, on parlait de Daniel Mermet, qui était une émission jouée en direct malgré le montage élaboré. Je pense à l'époque de Éclectique Rebecca Manzoni, à l'époque où elle était en quotidienne, parce qu'on a beaucoup retenu les entretiens du dimanche. Mais il y a eu une époque où elle a eu le 9-10, et puis après ça s'était continué le samedi où elle avait 2 heures, où là il y avait un peu des reportages, des interviews tournées, des chroniqueurs en direct, et il y avait un plateau qui faisait des allers-retours. Ça donne une différence de plan en fait entre des formes produites. Alors on parle de Guillaume Meurice qui fait ça, mais sur des temps très très courts, il n'y a pas plus de 5-6 secondes de son sans qu'il intervienne en direct. Je trouve dommage qu'on ne joue pas plus là-dessus. C'est ce qu'on fait nous pour faire cette fois la branche marketing de l'émission que je défends, qui est Méga Combi sur Radio Canu. Nous, c'est une émission avec plein de formes, des fictions, des créations, des reportages, des documentaires, mais qui est jouée en direct. D'accord. On fait plein de sketchs en direct, on fait des éditos en direct. Il n'y a pas d'invité parce que c'est un choix de format. Mais en tout cas, je trouve que c'est très important la présence en direct et ça se sent pour l'auditeur.
Oui. On voit bien d'ailleurs dans les nouveaux formats, je pensais à ça parce que j'en parlais avec Armel M qui est là pour votre plateau de tout à l'heure, qui est sur Nova, qui officie le matin avec Edouard Baird. Bah, Edouard Baird, il a introduit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quelque chose de nouveau.
Oui.
C'est pas dans les petites choses qu'il invente, ça ressemble pas à des choses qu'on connaissait avant quand il fait lire une poésie à un enfant. C'est malin, c'est drôle, c'est frais, ça fait du bien. Quand il improvise son petit texte, un peu slam, un peu rap au début, quand il appelle un copain pour lui demander avec quoi il se douche, voilà, il y a un côté un peu marrant, mais pas que. Il arrive à alterner entre la gravité et un truc très léger et finalement très amusant. Et à ce titre-là, ça montre bien qu'on peut inventer un nouveau format.
Encore deux questions et on a fini. Vous parlez beaucoup de l'expression politique. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les formes radiophoniques qui permettent de donner le plus à entendre la voix des auditeurs ? Question très vaste, s'il en est.
La voix des auditeurs ?
Oui.
Il y a plein de trucs qui existent. À Radio France, on a la séquence du médiateur sur laquelle je ne me prononcerai pas. À Skyrock, il y a Difool. Il y a Interactive, là, où je sais pas comment ils appellent les auditeurs, mais comment le téléphone sonne, l'émission historique. Je sais pas quelle est la meilleure. Après, comme on disait tout à l'heure, c'est souvent des prétextes, des filtres. C'est pas des auditeurs qui tout d'un coup prennent le pouvoir. J'ai pas d'exemple où les auditeurs. Après, il y a ce truc d'interactivité. Moi, je défends pas à tout prix. On demande pas aux spectateurs du cinéma tout d'un coup de rentrer dans le film.
Moi j'allais dire la même chose, c'est-à-dire que je sais qu'on sanctifie beaucoup maintenant la participation des auditeurs aux émissions, comme on sanctifie la participation, vous savez, à l'époque, les émissions politiques, il fallait absolument qu'il y ait des vrais Français.
Oui.
100 Français qui interrogent le président de la République. On se rend compte aujourd'hui que d'abord, ça ne donne pas toujours des résultats très satisfaisants. Peut-être qu'on n'a pas trouvé le bon format, ça c'est une possibilité. Et que deuxièmement, moi non plus, je ne sanctifie pas du tout. Je crois que de temps en temps, ça ne rajoute rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça ne rajoute rien. Ça, c'est un peu comme dans une conférence. Moi, je fais souvent des conférences comme universitaire. Maintenant, c'est sûr qu'avant, on pouvait faire une conférence pendant 2 heures. Il y avait un type qui parlait pendant 1 heure, il discutait avec une autre personne pendant 1 heure, et le public n'intervenait pas. On laissait 5 minutes de questions. C'est vrai qu'on n'est plus là-dedans. Et peut-être heureusement, maintenant, vous faites une conférence de 2 heures, il faut faire 1 heure de conférence, 1 heure et quart, et vous avez au moins 45 minutes de questions. Mais il faut faire attention, comme dans tous les débats, qu'il y ait un peu de règles, non pas pour filtrer la parole, mais pour tout simplement permettre que c'est une parole qui circule, parce que vous pouvez tout à fait avoir aussi, on sait très bien que les questions, par exemple dans les conférences, c'est souvent des commentaires. Alors avant de poser ma question, j'aimerais vous dire...
J'aimerais revenir.
Et il dure 25 minutes sur un truc dont en fait les autres... auditeurs, enfin les autres personnes qui sont là se fichent complètement, n'ont pas envie d'entendre le commentaire de M. Tartampion ou de Mme Duchemol, parce qu'à un moment donné, ils viennent aussi pour entendre une parole donnée à un endroit donné. Donc il me semble que c'est très important, l'idée qu'on continue de réfléchir à comment on donne la parole pour les auditeurs, mais il faut faire un peu attention à pas ce fantasme où tout d'un coup la radio s'emparerait d'elle-même pour se faire toute seule.
D'accord.
Mais... À Canu, en tout cas, je pense que c'est le cas de pas mal des radios libres. On est les premiers auditeurs. C'est des auditeurs qui font cette radio. Les gens qui écoutent Radio Canu, on est 100 animateurs qui passent par semaine. On est les premiers auditeurs de cette radio. Et quand je dis on ne demande pas aux spectateurs de rentrer dans le film, ça n'empêche pas qu'on peut aussi fabriquer des émissions de radio, ou même des films, avec les gens. Les documentaires, on les fabrique avec les gens, à différents degrés de participation. On peut citer Chris Marker et toutes ses expériences dans les usines, comment on fabrique un film. Enfin, je ne veux pas avoir, avec cette formule, l'air d'être hautain, de dire chacun à sa place. Il n'y a pas que forcément les professionnels qui peuvent avoir la parole, mais en tout cas, le truc de l'interactivité à tout prix, tout de suite, enfin, voilà, c'est une forme... pas sûr quelle est la mieux entre Difool et Patrick Cohen le matin, je ne me prononcerai pas.
Très bien. Alors, la dernière question, elle vous est adressée plus directement, Vincent Martini, sur l'atelier du pouvoir. Le Front National a refusé de participer à l'atelier du pouvoir car il y avait une chroniqueuse de Mediapart et le Front National boycotte purement et simplement depuis quelques années déjà Mediapart. France Culture a cédé et n'a pas invité Mediapart. Pourquoi avoir cédé au FN ?
Alors d'abord, il faut revenir sur cette histoire parce que ça s'est pas passé comme ça. En gros, quand on lance une émission de plateau, on lance plusieurs invitations à la fois. C'est-à-dire qu'on lance... nous, notre principe, c'est... l'émission tourne autour d'un acteur politique dans une discussion avec un universitaire. Très rare qu'on ajoute des journalistes, très rare. Et c'est parce que c'était le Front National qu'on s'est dit qu'il faut faire un peu attention, parce que pour être tout à fait sincère, on se disait peut-être que l'université n'osera pas, jouer son rôle comme dans un plateau normal, donc on va rajouter une journaliste. Mais quand vous faites un plateau d'émission de radio, surtout d'émission de plateau, il faut des gens qui ont envie de parler ensemble. Donc en général, on lance plusieurs invitations en même temps, on voit le premier aussi qu'on pêche, parce que vous savez, les médias, c'est aussi une question de temps contraint, donc vous n'avez pas forcément les gens que vous voulez, les gens que vous voulez, bon. Et on a été confronté à une situation dans laquelle vous avez deux personnes qui ne veulent pas parler ensemble, en tout cas une personne qui ne veut pas parler avec une autre.
Oui.
Alors, c'est une question très compliquée parce qu'il y avait deux solutions. Soit on annulait l'émission, on disait bah oui, on considère que là il y a un problème lié à cette situation-là, soit on la maintenait autour de l'invité qui était quand même l'invité principal pour nous. C'est pas bien sûr là de dire c'est un principe moral de dire ça, mais c'était l'invité politique. Et à ce moment-là, on trouve quelqu'un qui va pouvoir. Et c'était le plus important pour nous, faire une émission équilibrée, qui ne permette pas de dérouler sur le Front National. Et donc on a fait ce choix d'annuler la participation de Marine Turki pour la cité de Mediapart, pour aller voir Olivier Faye, qui n'est pas non plus, on ne peut pas venir, un sorte de collabo du FN. Et quand vous écoutez l'émission, en l'occurrence, c'était une émission, je crois, plus qu'équilibrée. Mais ça pose la vraie question, c'est-à-dire que là où probablement nous, on a moins fait attention, comme ça nous arrive très souvent à la radio, ça arrive très souvent, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas parler entre eux, donc on dit on annule la participation d'un tel ou d'un tel. Et d'une certaine manière, comme tout le monde, on invite les gens de Mediapart, comme on invite beaucoup plus souvent d'ailleurs des gens de Mediapart que des gens du Front National. Il faut dire ce qu'il y a. Nous, en 3 ans d'émission, on a fait 3 émissions avec le Front National sur 120 épisodes. Et d'une certaine manière, on peut même se poser la question si démocratiquement, on n'aurait pas en avoir fait plus. Mais c'est vrai qu'on a peut-être sous-estimé le fait que ça pose des conditions encore particulières. Ce qui montre peut-être que ce parti, la question qu'on posait, c'est ce parti est-il devenu un parti comme les autres ? Et bien peut-être que cet épisode qui nous est arrivé, dans lequel on apprend nous-mêmes, parce que moi j'ai vraiment appris de cette leçon-là, montre que le FN en tout cas n'inspire pas des sentiments tout à fait comme les autres partis, et que ce qui nous arrive, on va dire quasiment tous les mois ou toutes les semaines presque, d'organiser un plateau pour que des gens veulent parler ensemble, pose des questions qui deviennent publiques et qui posent des difficultés quand il s'agit d'inviter des gens du Front National avec d'autres types de journalistes. Maintenant, vraiment je voudrais dire un mot, parce que j'étais assez fâché de cette histoire, notamment dans la façon ça même ça s'est passé avec la journaliste de Mediapart en l'occurrence, qui a attendu 3 semaines pour nous réchauffer le plat au micro-ondes et de nous attaquer sur Internet sans même nous passer un coup de fil pour qu'on en discute à un moment donné, pour voir ce qui s'était passé, quelles étaient les conditions, sachant que les conditions d'un débat d'actualité à la télévision, c'est pas la même chose que les conditions d'une émission de réflexion à la radio, et que ça aurait pu faire l'objet d'une discussion, qu'aurait pu d'ailleurs déboucher de sa part sur le fait de faire un post de blog tout à fait aussi violent. Mais j'ai trouvé qu'en termes de relations et de discussion, c'était quand même pas idéal. Donc voilà exactement ce qui s'est passé, et Dieu sait que pour nous ça a été un moment qu'on a trouvé assez injuste. Moi je l'ai vécu avec une forme d'injustice, je le cache pas, parce que on essaye de faire quand même un boulot le plus équilibré possible, et c'est un coup que j'ai pas vu venir, mais je crois que c'est aussi les passions de l'élection présidentielle, donc ça explique que ça génère à ces moments-là des passions tout à fait particulières, comme pour finir sur ce sujet-là. Vous savez, quand on fait une émission politique à la radio, on reçoit des courriers d'auditeurs souvent passionnés. Alors, on a de la chance, nous, parce qu'on est plutôt une émission qui reçoit un vrai soutien des auditeurs de France Culture, et on a réussi à s'installer dans un temps pas très important, mais c'est drôle parce qu'on vous prête toujours des intentions. Alors Gérard disait, de les trois dernières semaines, par exemple, alors on s'est fait traiter de la quai du Front National à cause de cette histoire. Ensuite, on a eu droit à j'ai eu droit à la quai du capitalisme international, le Fillon, etc., etc. Et j'ai reçu un vermine mélenchonienne.
Oui, donc tout est son contraire.
Tout est son contraire, c'est tout à fait légitime, parce que nous, on a invité toutes les forces politiques depuis trois ans. On a invité Jean-Luc Mélenchon il y a un an sur les élections présidentielles. On a invité Jean-Marie Le Pen. On a invité, bien sûr, des gens du Parti Socialiste, des gens de la droite, des Républicains, du DI, etc., etc. Donc, si vous voulez, après, on essaye, nous, et ça, c'est aussi une particularité de l'émission, d'être le plus... le moins présent possible à l'antenne, puisqu'on essaye de donner la parole à des gens, c'est surtout eux qui comptent. Mais des fois, une façon de vous poser une question, les auditeurs, des fois, croient détecter une opinion politique. Bon, je crois que si on écoute, a priori, quand même, c'est pas forcément le cas.
Et la route est si longue, à la boussole en marche arrière.
Un très grand merci à nos deux invités, Vincent Martini et Olivier Minot, pour avoir accepté notre invitation et pour avoir participé à cette table ronde et à cette journée de la radio. L'ensemble de la journée est à retrouver, comme d'habitude bien sûr, sur transistor.fr et sur journeedelaradio.fr. Et on se retrouve l'année prochaine, rendez-vous dans un an, chers auditeurs, pour une autre journée de la radio.
Là, tu restais là, tu disais merci, même si pour toi c'était mal parti.